Voilà, eh bien, on va retrouver tout de suite Bernard pour parler de son livre « Rumeurs en embuscade ». Mais avant, Bernard, on va rappeler un petit peu tous les livres que tu as faits, puisqu'on le disait, tu en es à ton 11e.
C'est donc, le 11e, oui.
C'est le 11e. Donc là, alors le premier, bon, c'est « L'ivresse des sommets », c'est ce qui t'a mis la main à la plume, je dirais.
Oui, ou le pied à l'étrier, ou le pied sur la pédale, puisqu'il s'agissait d'une histoire de cycliste. Bon, maintenant, je pense que la plupart des auditeurs de Radio Craponne connaissent, donc on ne va pas s'éterniser. Ça se passe à Amber. C'est un jeune garçon qui se lance dans le vélo et qui va rencontrer les gros problèmes actuels du vélo.
Alors, des copains de 20 ans, ben là, on reste toujours à Amber, hein.
Oui, alors là, c'est un accident de parcours d'une certaine façon, parce que le premier m'avait conduit à Amber, et à Amber, quand ils ont lu ce bouquin, le président de l'association des copains, qui organise chaque année une grande manifestation sportive, a voulu que j'écrive les 20 premières années de cette association. Donc c'était un style un petit peu particulier, oui. Mais il est épuisé.
Très bien.
C'est épuisant, le vélo.
Oui. Et alors après, bon, les mailles de la rancune, alors là, on commence à rentrer dans les romans de terroir où on parle de pays un peu, les pays où c'est dur de vivre dans la Haute-Loire.
Enfin, c'est là on est sur le plateau du Mézin, dans les deux d'ailleurs qui se suivent, les mailles de la rancune et encore du feu sous la cendre, qui en est le tome 2. On est sur le plateau du Mézin, plus précisément dans le très très joli hameau de Bigorre que beaucoup d'éditeurs connaissent sûrement, et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, la honte soit sur eux, ou plutôt non, qu'ils aillent vite y faire un tour dès les premiers beaux jours. Donc des histoires de famille qui se font la guéguerre, donc en deux tomes, les mailles de la rancune et encore du feu sous la cendre.
Ensuite, tu as écrit, alors on est en 2010 là, l'aurore malgré tout.
Alors là, l'aurore malgré tout, c'est aussi un livre en deux tomes, l'aurore malgré tout, puis un faux pas dans la nuit qui ne paraîtra que 2 ans plus tard, parce qu'il s'en est intercalé un autre dont on parlera tout à l'heure. Et on est essentiellement ici sur le plateau de Craponne, et le héros, on va le voir déambuler dans les rues de Craponne notamment, et tout près de Radio Craponne qui à l'époque n'existait pas, puisqu'on était dans les années 70, et que Jean-Pierre Langénieux n'avait pas encore sévi. Enfin, quand je dis sévi, c'est pour le plus grand plaisir de tous les auditeurs de Radio Craponne. Et j'en profite, c'est une parenthèse, pour remercier Jean-Pierre de tout ce qu'il fait, pour moi bien sûr, pour présenter mes romans, mais pour tous les auteurs de la Haute-Loire et d'ailleurs, qu'il invite régulièrement, et c'est un joli petit coup de pouce qu'il nous donne.
Eh bien merci, donc oui, et puis un faux pas dans la nuit, donc après je crois que ça se déplace sur Lyon, non ?
Alors oui, l'intrigue va amener le héros jusqu'à Lyon, mais dans le tome 2 en Provence. En fait, tout à l'heure tu as parlé de romans de terroir, moi j'ai plutôt l'habitude de dire que c'est des romans enracinés en Haute-Loire, mais qui ne sont pas du pur terroir, mais qui présentent des intrigues qui se situent souvent, c'est un peu mon créneau dans le temps, ça, dans les années 70.
Oui, c'est vrai que on parle toujours un peu de l'Haute-Loire, mais on se déplace autour. D'ailleurs, on va le voir plus tard. Donc, La fiancée des nuages. Alors là, on va pas très loin, hein, puisqu'on va à Loud. Hein, c'est une histoire.
On va pas loin, mais quand même, Jean-Pierre, on décolle. Hein,
oui, on va décoller.
On va prendre de la hauteur.
Avec La fiancée des nuages, oui. L'histoire de cette jeune fille qui est passionnée par l'aviation.
Voilà, et c'était à l'occasion du 80e anniversaire de l'Aéroclub du Puy et du 100e anniversaire du premier meeting aérien en Haute-Loire, donc ça date pas d'hier, et on m'avait demandé à l'Aéroclub du Puy une fiction qui est comme décor l'aérodrome là-bas de Loud, et voilà, ça a donné La fiancée des nuages qu'on va suivre bien sûr dans ses premiers décollages, mais qu'on va suivre jusqu'au bout du monde.
Ensuite, Étrange Meunière, donc c'est en 2013 que tu as écrit ce roman.
Alors, ce roman se passe du côté de Riotor, d'Unières, Saint-Julien-Mont-les-Sabbats, et c'est l'histoire d'un facteur qui apparemment n'a pas grand-chose pour lui, il ne paye pas de mine, le pauvre, et il va se trouver embarqué dans une histoire qui, si elle le dépasse, va lui permettre quand même de se rendre compte qu'il n'est pas aussi peu dégourdi que ce qu'on voudrait bien le croire.
Oui, parce qu'il y a toute une intrigue là aussi avec c'est une lettre en fait qui démarre
voilà,
le roman.
Voilà,
c'est ça, la lettre que cette étrange meunière reçoit.
Voilà.
Et puis après, bien tout.
Et le facteur voudra savoir. À partir du cachet de la poste sur la lettre, un petit peu en savoir un peu plus sur cette étrange personne. Puisqu'il faut dire qu'elle l'a accueilli de façon tout à fait sympathique, avec le chien devant la gueule ouverte et elle derrière avec le fusil. Donc ça méritait qu'il se pose quelques questions, en effet.
Après un amour casadéen, alors ça c'est l'histoire d'une famille de la Chaise-Dieu, hein,
voilà,
tout simplement.
C'est une famille de la Chaise-Dieu qui a bel et bien existé, qui a vécu cette histoire. Alors, pour être plus à l'aise, pour que ça ne soit pas vraiment une biographie, j'avais changé les noms. Mais la personne qui me l'a donné, que beaucoup de gens en Haute-Loire connaissent, qui est le docteur Rafaïa, qui est présidente de la Ligue contre le cancer. Docteur Rafaïa, c'est l'histoire de sa mère et elle m'a confié cette histoire. Donc, j'en ai changé les noms, mais je n'ai rien changé à l'intrigue elle-même. Et c'est une histoire très très romanesque.
Et puis Itinéraire d'une fille perdue, alors ça c'est ton avant-dernier livre.
C'est l'avant-dernier livre, celui de l'an passé qui nous avait emmené dans la vallée de l'Allier, plus particulièrement à la Voutchillac, aux côtés d'une jeune fille qui rentre à la maison et doit avouer à ses parents qu'elle est enceinte. Elle a 17 ans, on est au début des années 60, elle ne peut pas révéler qui est le père, et donc il y a tous les ingrédients pour que son père à elle fasse une grosse, grosse, grosse colère et l'envoie chez sa sœur, qui est la mère supérieure du couvent de la Voutchillac.
Voilà, donc ça, c'est tous les livres. Ben, si vous ne les avez pas encore lus, vous les trouverez, hein, dans les, comme on dit, dans les bonnes librairies. Donc,
voilà,
hein,
on peut les trouver partout.
Ouais,
on
partout,
peut les trouver à la Clé du Chemin.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on va parler de ce dernier livre, puisqu'on est là pour ça. C'est Rumeurs en embuscade. Donc, c'est ton dernier livre. Là, on va dire que tu changes, pas de style peut-être, mais tu changes carrément l'histoire, parce qu'en fait, ça va être plusieurs histoires qui vont se
télescoper.
Se télescoper,
un peu,
voilà, c'est ça. Hein.
Alors, c'est surtout, je change pas le style, parce que le style, c'est du Bernard Lost qui ne sait pas faire autre chose, le pauvre, de toute façon. Donc, il est bien obligé de s'en tenir à ce qu'il sait faire. Mais c'est l'optique un peu. Dans tous les autres romans, il y a toujours une partie, il y a des occasions de sourire certes, mais il y a toujours une partie un peu dramatique. Ici, c'est exclusivement, j'oserais pas dire une farce, mais quand même, tu as dit tout à l'heure, non, que j'étais déjanté, non, je sais plus quoi.
Non, mais quand on en avait parlé, t'as peut-être dans un certain délire, on sait
voilà,
pas.
Voilà, dans un certain, il y a un
mais
peu
enfin,
de
délire, tout à fait maîtrisé. Attention.
Oui, merci Jean-Pierre. On a maîtrisé le délire, mais c'est vrai que le but de ce roman est d'abord et avant tout de détendre, si possible, de faire sourire, et mieux encore, dans certains passages, je crois, qu'on a l'occasion de rire franchement. Alors, ça se passe sur différents points de la Haute-Loire, puisque, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs histoires qui vont se croiser. La ligne directrice, si on peut dire, c'est au Monastier. Alors, je pourrais dire tout à l'heure pourquoi le Monastier, si tu me le demandes. Donc,
on va aller, la réponse.
Une autre histoire qui se passe au Puy, sur laquelle vont se greffer Saint-Vincent, Caire, et surtout ces histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, l'une avec l'autre, parce qu'il y a en fait deux grandes histoires, enfin, n'ont rien à voir a priori, vont peut-être quand même se trouver des liens communs sur la fin.
D'accord. Alors, on va peut-être, ce qu'on disait, lire le début que tu as fait, puisqu'avant, quand la personne rumeur en embuscade, Bernard Lost, donc là, en plus, ton premier de page, c'est le château du Monastier, ça, non ?
Ouais, alors, c'est la partie, c'est une tourelle
là,
qui
a
collé au bâtiment conventuel qui servait de mairie jusqu'à il y a un an, je crois,
ouais, c'est ça,
à peu près.
Ouais.
Et qui sont toujours des bâtiments communaux, les anciens bâtiments de l'abbaye avec leurs arcades.
Où il y a l'école de musique. Où
il y a beaucoup d'associations.
Oui, qui viennent.
Il y a la bibliothèque où je serai samedi 19 mars pour la présentation de ce roman à l'invitation de la municipalité et tout particulièrement du maire Michel Arcis. Donc si vous passez par là samedi matin à 10h30, il y a un diaporama qui présente un petit peu ce roman. Là, c'était une parenthèse. Donc, on est au monastier, effectivement. Et comme il s'agit de rumeurs, eh ben, on voit dans la, sur la place des gens qui bavardent. Et derrière une fenêtre, une quatrième personne qui observe un peu la scène. Forcément, une rumeur, on est obligé de l'entretenir et de la tenir, de se tenir aux aguets.
Alors peut-être qu'on peut, bah oui, lire ces deux pages là, puisque ça, puisque c'est la première chose que va avoir le lecteur. Tu les avertis, Carmel
Mavard. Voilà, c'est un avertissement. Alors ouais. on va lire. Jean-Pierre fera, eh bien, le lecteur X, Y ou Z qui, ouais, à qui ce bouquin tombe entre les mains. Et puis pour ma part, je vais faire mon propre rôle et on commence tout de suite. Et vous y allez retrouver des apartés dont vous savez que je suis friand dans ces livres. Alors, petite parenthèse encore avant sur les apartés. Ces apartés agacent prodigieusement un certain nombre de lecteurs. Mais quand même, il y a encore plus de lecteurs, d'après les échos qui me reviennent, qui les aiment bien. Donc, pardon, amis lecteurs qui n'aimaient pas, vous allez encore en subir pas mal au fil de ce bouquin. Mais vous pouvez toujours sauter le passage. Pardon. Amis lectrices, amis lecteurs, autant que tu le saches avant d'en commencer la lecture, ce bouquin n'est pas un traité de philosophie, ni un programme politique, ni une méditation spirituelle, ni un précis de droit, un recueil de poèmes, un livre de recettes, un guide touristique, un récit de voyage.
Dis donc, écrivaillon du dimanche, ne serait-il pas plus simple que tu me dises ce qu'est ce bouquin plutôt que de me faire la liste de ce qu'il n'est pas ?
Oh, si tu y tiens, c'est un roman.
Quelle révélation ! Et tu me fais tout un pataquès pour si peu, un roman, c'est ton 11e, je crois que tu parles d'un scoop. Qu'est-ce qu'il a donc de différent, celui-là ?
S'il est différent, c'est peut-être un peu de ta faute, figure-toi.
Voilà autre chose, qu'est-ce que j'ai fait, moi ?
Oh, rien, sans doute, sauf si tu fais partie de ceux de mes lecteurs, assez nombreux quand même, des lectrices la plupart du temps, qui me disent « À tel endroit, tu m'as fait pleurer ». Et je sens bien qu'il y a derrière ce propos une sorte de revendication. Je veux bien acheter ton bouquin, mais à une condition, tu m'offres une boîte de Kleenex. Non, mais tu imagines ? Alors tu vois, j'ai adopté une autre stratégie. Il n'y a pas une seule ligne dans ce roman susceptible de faire couler tes larmes. Au contraire, j'aimerais que chaque chapitre te donne souvent l'occasion de rire, non pas rire à gorge déployée, certes, ni surtout rire jusqu'aux larmes. Sinon, c'est le retour à la case départ par rapport à la boîte de Kleenex, mais te faire sourire souvent, le plus souvent possible. Bon, trêve de préambule, tu es prévenu. Il est encore temps pour toi de refermer ce bouquin. Tu te rappelles cette mention que l'on trouve parfois dans certaines petites annonces, surtout matrimoniales, pas sérieux, s'abstenir. Ici, ce serait plutôt l'inverse. Trop sérieux, s'abstenir. Si toutefois tu ne t'abstiens pas, j'ai grand plaisir à t'emmener avec moi au monastier sur Gazeille, au sud-est de la Haute-Loire. Nous sommes en 1970.
Voilà, donc c'est le début, c'est ce que vous allez trouver sur la première page du livre. Et puis après, eh bien oui, Bernard vous l'a dit, c'est octobre 70, c'est le monastier sur Gazeille. D'ailleurs, on salue au passage les gens du plateau, parce qu'on sait que là-haut, Radio Craponne...
Oui, on sait que là-haut, Radio Craponne fait une grosse audience, hein, que ce soit sur le plateau Ardéchois ou sur le monastier. On a beaucoup d'amis maintenant, même là-bas. Alors, octobre 70, c'était important la date et c'était important de commencer au monastier sur Gazeille.
Alors, la date, je ne suis pas très très original dans mes dates parce que c'est souvent, mes romans se situent souvent dans cette tranche-là, les années 70... Allez, on va dire une fourchette entre 60 et 80. Oh, le pourquoi, c'est qu'il y a sans doute un brin de nostalgie dans tout ça. C'est l'année de mes 20 ans, grosso modo. Donc, forcément, ça fait plaisir de rebalayer un petit peu cette époque.
Voilà, alors donc on part du monastier sur Gazeille. Comme tu le disais, il va y avoir plusieurs personnages dans ce roman qui vont, tout d'abord, ils vont partir un peu chacun de leur côté, on va dire, et puis ils vont se retrouver. Alors ça, faudra lire pour savoir comment et pourquoi ils vont se retrouver. Alors si je lis bien, tu commences avec Jacques Soulier, le cordonnier du monastier sur Gazeille, qui, bah, prendre plus au sérieux la crainte des Gaulois de voir le ciel leur tomber sur la tête. Alors, et d'abord, est-ce qu'il a existé ce personnage ou ça sort complètement ton imagination?
Alors, il y a eu un cordonnier au monastier, mais il s'appelait pas Jacques Soulier. Alors, celui-là, Jacques Soulier, forcément, il a un nom prédestiné. Hier, Gilles Calamand, ou avant-hier, lui qui a la, qui est familier de ça, m'a dit, oh, tu m'as piqué mes idées. Parce que, oui, un cordonnier qui s'appelle Soulier, remarquez, il y a des gens comme ça qui ont des noms prédestinés. Je me rappelle, à un moment, j'étais en contact avec un surveillant d'internat qui s'appelait Gardien. C'était son nom. Et puis, vous avez tous connu la boulangerie du pain, ou j'en sais, voilà. Lui s'appelle Soulier. C'est un brave garçon, célibataire, conseiller municipal, qui ne fait pas de bruit. Et qui à qui il va arriver une drôle d'aventure quand même. Et c'est pour ça qu'il aurait bien fait de se méfier, de prendre à son compte la crainte des Gaulois qui, vous le savez bien, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Il aurait bien fait parce qu'il aurait un petit peu levé la tête justement et regardé au-dessus et il aurait peut-être vu venir le danger. Mais on n'en saura pas plus pour tout de suite. Donc c'est un des premiers personnages, c'est celui qui va être au cœur de l'intrigue au monastier.
Ok. Alors après on va en trouver un autre, hein, puisqu'il s'appelle lui Jean-Bernard Cardon. Donc lui il est de Saint-Vincent, et tu dis qu'il a eu, il aurait été bien inspiré de pas descendre la rue Adhémar du Monteil au puits sur une vieille mobilette un matin de grand froid. Il aurait peut-être évité les bavardages sur son compte à la sécu où il est employé. Donc là, on charge encore.
Voilà. De, alors, une rumeur, c'est comme les trains. Une rumeur peut en cacher une autre.
Oui, puis ça s'arrête jamais.
Et donc, là, on est au puits. Et ce garçon de Saint-Vincent travaille à la sécu et habite tout à fait dans la haute ville, là-haut, près de l'évêché. La rue dont j'ai oublié le nom, si ça y est, Cardinal Polignac, je crois. Et pour se rendre au boulot, il a l'habitude de descendre par la rue Adhémar de Monteil, qui est une rue très très pentue et pavée, alors qu'il pourrait rejoindre de l'autre côté la descente pour aller rejoindre Lafayette, je parle trop fort, mais il faudrait qu'il passe à une heure où les rues sont encombrées de nombreux lycéens, il préfère descendre par là. Le problème, c'est que même au puits, il arrive que l'hiver, les pavés soient un peu glissants, et dans une descente aussi raide et avec une mobilette d'un autre âge, ça peut donner un résultat assez étonnant. Le résultat assez étonnant, vous le découvrirez dans les pages. Je ne vais pas le dévoiler maintenant.
Non, donc on positionne les personnages là du livre de Bernard Lost, qu'on reçoit aujourd'hui entre invités jeudi, Rumeur en embuscade à la clé du chemin, l'éditeur. Et puis on va trouver une jeune femme ou une jeune fille. Et elle, c'est Béatrice Beltran. Alors, on va un petit peu au-dessus du puits. Là, la jeune Quairoise, infirmière à l'hôpital. Eh bien, elle n'aurait pas dû sortir son chien aussitôt sur des pavés transformés en patinoire. Décidément, on patine beaucoup.
Oui.
Elle aurait évité une belle gamelle. Alors là aussi, c'est pareil. C'est toujours. Ils vont se rejoindre tous ces personnages.
Alors, ces personnages vont se rejoindre. Elle sort. Il se trouve qu'elle sort son chien. Pour faire ce qu'on fait faire au chien le matin, si on veut pas qu'il le fasse sur le carrelage ou sur le lino. Donc, elle est en congé ce jour-là, elle ne serait pas pressée, mais voilà, il faut aller faire pisser le clébard. Donc, elle va sortir aussi, et pour elle aussi, les pavés sont glissants.
Très bien, alors on a les trois personnages en fait qui vont...
Alors d'autres vont se greffer, ouais, mais c'est ceux ces qui vont être au cœur de l'intrigue,
qui vont faire le lien. On peut dire
des intrigues.
C'est le fil rouge, comme on dit, nous.
Voilà,
c'est un peu le fil rouge,
voilà,
de ce rumeur en embuscade. Alors tu vas les promener pas mal, parce que on est parti du monastier, on est passé à Saint-Vincent, à Caire. Et puis finalement, je vois que on va les retrouver. Alors, je ne sais pas si on va tous les retrouver, mais on va retrouver quelques-uns, peut-être ou tous, en Aveyron. Alors une rumeur avec des gens qui sont en mobylette, d'autres qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et puis cette jeune Quairoise qui sort son chien toujours sur des pavés. Ouais, là, on voit pas bien où tu vas en venir.
Oui, alors là, je Bien sûr, je pourrais vous expliquer le rapport.
Ah non, non, faut pas, sinon on explique le livre.
Voilà, sinon on expliquerait trop le livre et ça perdrait de son intérêt pour ceux parmi vous qui auront la gentillesse de se pencher sur ces pages. Oui, il va y avoir un moment, un détour par l'Aveyron. Et pourquoi l'Aveyron ? Parce qu'il faut bien... Je voulais que dans mon intrigue... à un moment, deux des personnages, et je ne vous dirai pas lesquels, excusez-moi, mais aient l'occasion de se rencontrer en dehors de leur décor habituel, qui est la Haute-Loire. Et donc, l'Aveyron, alors, j'étais, au début décembre, alors que j'étais en cours d'écriture, je savais qu'ils partiraient, mais qu'ils iraient où ? En Provence, dans le Beaujolais, j'en sais rien où. Et puis finalement, ils vont se retrouver en Aveyron. Pourquoi ? Ben parce que pendant que vous êtes en train d'écrire, enfin c'est ce qui me concerne au moins, ben vous êtes un peu imprégné de votre histoire et vous êtes aussi un petit peu à l'écoute d'un peu tout ce qui peut se passer ou vous arriver. Et il se trouve que j'étais au marché de Noël du Monastier. Et que j'ai rencontré là quelqu'un que j'y rencontre assez fréquemment et qui habite en Aveyron. Et alors, on a parlé de l'Aveyron, elle m'a parlé de son village de l'Aïeul, célèbre, on le sait bien, par ses couteaux.